Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Plus qu'une petite poignée de jours avant la WDC, on découvrira lundi iOS 26, macOS 26 et watchOS 26. Et oui, il se murmure qu'Apple va changer la numérotation de tous ses systèmes d'exploitation. Et ce ne serait pas le seul changement marquant en préparation. On va voir avec Christophe quelles sont les rumeurs de dernière minute. Dans le reste de l'actualité, les marchés financiers doutent d'Apple, trois importants sites pornographiques ont fermé leurs portes en France et la concurrence fait rage dans les télécoms. Nous sommes le samedi 7 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Il n'y a pas eu de nouveaux produits Apple cette semaine, mais plusieurs membres de l'équipe ont fait chauffer leur carte bleue parce que c'était le lancement de la Switch 2. Salut Christophe, tu vas bien ?
Salut Stéphane, bonjour à tous. Ça va pas terrible, je suis bouleversé par les querelles entre Donald et Elon, là, deux amis de moins de 30 ans qui se déchirent comme ça sur la place publique, ça me bouleverse. Mais sinon ça va.
Est-ce que comme Félix, tu t'es précipité en magasin pour acheter une Switch 2 ?
Ah, hélas non. Mais enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu autour de cette Switch 2 dans les couloirs de la rédaction de Mac Génération ? Elle est chère, cette nouvelle Switch, patati patata. Et à la fin, je suis étonné par le nombre d'acheteurs dans la rédac. Non, moi, j'ai fait un bel achat cette semaine, quelque chose. Voilà, j'ai dû changer d'imprimante. Et je me suis retrouvé dans un magasin à choisir entre, et toujours à me poser la même question que depuis 20 ans. J'ai d'encre ou laser, et de se rendre compte une fois arrivé à la maison et que l'imprimante est déballée, que l'imprimante que j'ai achetée, elle est même pas compatible AirPrint.
Ah oui, mais, c'est possible ça en 2025.
Mais attention, mon imprimante, elle sait envoyer des fax.
Waouh.
Et ça, c'est possible avec une Switch 2. Et toi, t'es resté sage ou qu'est-ce que t'as fait?
Non, pas de Switch 2 pour moi, mais j'ai eu la chance de pouvoir la prendre en main grâce à l'achat de Félix. Mais non, je vais pas craquer, en tout cas pas pour l'instant. Je viens seulement de commencer Zelda Breath of the Wild sur la Switch 1. C'est vous dire un peu le retard que j'ai dans les jeux Switch. Donc la Switch 2, je vais attendre encore quelques années, je pense.
Tu pourras l'avoir à meilleur prix, c'est pas plus mal.
Oui, voilà. Je vais attendre qu'elle baisse et puis qu'une version OLED aussi, parce que c'est la petite déception de cette Switch 2 de première génération. On va passer tout de suite au gros sujet de la semaine. C'est bien entendu la WWDC 2025 qui va démarrer lundi. Vous pourrez suivre l'événement comme d'habitude en direct sur notre site spécial lekeynote.fr. Alors lors de cette conférence, Apple devrait dévoiler deux nouveautés très importantes. Une toute nouvelle interface sur tous ses systèmes d'exploitation, ainsi que l'ouverture des modèles d'Apple Intelligence aux développeurs tiers. Et puis, comme j'ai dit en intro, la numérotation des systèmes pourrait changer. A priori, on aura droit à iOS 26, macOS 26, watchOS 26, etc. Ça serait plus simple à retenir qu'iOS 19, macOS 16 et watchOS 12. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les rumeurs. On a consacré un épisode spécial de Kernel Panic sur le sujet. Je vous invite à l'écouter si vous êtes abonné au Club IGN. Mais depuis sa diffusion en milieu de semaine, des nouvelles rumeurs sont apparues. Je vais en citer quelques-unes. D'après 9to5Mac, l'application Message aurait une fonction de traduction et pourrait permettre de faire des sondages. CarPlay aurait une nouvelle interface. Ça paraît assez logique si iOS reçoit un gros coup de pinceau. Et puis, il y aurait aussi beaucoup de nouveautés pour les AirPods actuels. On parle de nouveaux gestes de la tête, d'une détection de l'endormissement, d'une fonction déclencheur pour l'appareil photo, ou encore d'une fonction d'écoute à plusieurs qui serait améliorée. On craignait un peu qu'à part la refonte de l'interface, il n'y ait pas grand-chose de nouveau, mais finalement, ça pourrait être pas si mal que ça, non ?
Je suis pas tout à fait d'accord, mais on verra tout ça lundi. Alors bon, on met de côté, effectivement, il y a quand même deux grosses nouveautés. Ça va être sans doute être la nouvelle interface et l'ouverture d'Apple Intelligence aux développeurs. Mais pour le reste, j'ai peur que ce soit beaucoup de saupoudrage. Et pour moi, il y a une vraie différence entre saupoudrage et nouveauté. Je dis pas que le fait de pouvoir faire des sondages dans Message ne va pas être une nouveauté sympa, tout comme la gestion du Markdown dans Notes ou les jaquettes d'albums animés sur l'écran d'accueil. mais on est quand même à la WWDC, c'est l'événement le plus important de l'année pour Apple, et voilà, on parle d'un événement pour les développeurs. Donc je trouve ça un petit peu light comme, comme nouveauté. Alors, sur une note plus optimiste, moi je suis assez épaté par la créativité d'Apple autour des AirPods. Mmh. Il y avait déjà quelques gestes bien pratiques, ça apporte une vraie valeur ajoutée. Alors je suis impatient de découvrir la suite. L'autre nouveauté qui devrait d'ailleurs être intéressante pour les AirPods, c'est la prise en charge de la fonction traduction. Qui au passage d'ailleurs devrait sacrément évoluer parce que voilà, je crois qu'ils vont, enfin il me semble avoir lu qu'ils vont la mettre à l'heure de l'intelligence artificielle générative parce que là elle est un petit peu faiblarde dans l'état. Mais toi dans l'eau, il y a des trucs qui t'intéressent ?
Alors bah je suis impatient de voir le mode, l'hypothétique mode DeX pour iPhone qui permettrait de d'avoir quand tu branches ton iPhone USB-C, j'imagine parce que le Lightning c'est mal barré, mais si tu branches ton iPhone 15 Pro ou ton iPhone 16 à un écran externe, peut-être que tu aurais un Stage Manager, tu pourrais utiliser ton iPhone comme, comme mini-ordinateur. Je suis assez curieux de voir ça, si ça se confirme, parce que ça paraît être quand même un gros changement pour l'iPhone. Et puis, bah, moi, j'attends les nouveautés aussi du côté de l'iPad. Notamment, enfin, c'est pas annoncé, mais j'espère un mode multi-utilisateur. Parce que, apparemment, l'iPad aurait quelques grosses nouveautés cette année. Ça serait quelque chose qui serait bienvenu, mais c'est pas confirmé du tout.
Mais pour en revenir effectivement à Stage Manager sur l'iPhone, là par contre, c'est une vraie curiosité pour moi. Et la question que je me pose depuis le début, c'est pour quel usage ? C'est pour faire quoi ? Alors, et on est d'accord que ça va pas être pour faire de l'iPhone un véritable ordinateur, mais c'est quoi ? C'est pour lorsque tu fais des démonstrations ou lorsque tu...
Oui, c'est peut-être pour remplacer, peut-être remplacer les Apple TV qui sont dans les salles de réunion et qui servent à faire essentiellement de l'AirPlay pour faire montrer des prototypes qui sont sur iPhone, des choses comme ça. Bah là, plutôt que d'avoir une Apple TV, tu branches ton iPhone directement en USB-C au moniteur, et puis tu montres ce que tu as sur l'iPhone. Peut-être ça.
Curieux de voir en tout cas comment ils vont nous présenter ça s'ils le présentent. Ça serait très intéressant.
Ouais. Avant le début de la WWDC, tout le monde n'est pas très confiant en la capacité d'Apple à casser la baraque cette année. Christophe, tu as remarqué que les analystes financiers de Needham et compagnie ont revu leur position en passant d'achat à neutre concernant l'action Apple. Alors si je traduis bien, ça veut dire que c'est pas forcément intéressant d'acheter des actions Apple aujourd'hui. D'ailleurs, depuis le début de l'année, l'action a perdu plus de 16%. Quel crédit, quelle importance il faut accorder à cette rétrogradation d'Apple ? Est-ce que les analystes ont le pouvoir de prédire l'avenir ?
Non, un analyste n'a pas ce pouvoir-là. Mais son opinion reflète quand même assez bien l'ambiance générale autour d'Apple. On voit mal comment Apple va parvenir à renverser la tendance et à parvenir à croître, disons, entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices dans les mois à venir. Alors, parce que quand on regarde l'équation, et ça, sans regarder dans l'avenir, l'équation du moment d'Apple, elle est compliquée. Alors, tout d'abord, il y a la Chine, ça va de mal en pis, hein, et je m'attends pas à, personne s'attend à un renversement de tendance à court terme. Les aspects réglementaires vont finir par avoir un impact tôt ou tard sur la croissance des services d'Apple. Si on fait sauter l'accord entre Google et Apple, notamment autour du moteur de recherche dans Safari, voilà, c'est un contrat à 20 milliards, donc c'est pas rien. La guerre commerciale risque d'avoir un impact négatif sur les ventes d'iPhone aux États-Unis, qui reste le plus gros marché d'Apple. Ça, voilà, ça, c'est comme ça. Alors, côté face, qu'est-ce que tu as, entre guillemets, pour repartir de l'avant ? Tu as un iPhone 17 Air qui serait la nouveauté marquante de l'année. Alors, je suis certain que ce sera un téléphone sympa, mais je suis moins certain que tout le monde se l'arrachera. Mais je peux tel un analyste me tromper après tout. Et puis après, l'autre nouveauté marquante, ça pourrait être, alors on n'a pas vraiment de calendrier, ça serait l'iPad HomeKit, comme je l'appelle. Bon, ça me paraît un petit peu léger malgré tout. Ouais. Et puis peut-être. Voilà, on a quand même le pipeline pour le second semestre. Il est encore assez flou. Bon, a priori, on aura quand même cette année bien une Apple Watch Ultra 3. Mais voilà, tout d'un coup, il y a une incertitude, par exemple, au sujet autour des AirPods Pro. dont on nous annonce qu'ils pourraient arriver finalement l'année prochaine. Mais ça veut peut-être dire qu'ils vont arriver finalement très tardivement cette année et assez peu peser, en tout cas, sur les comptes d'ici la fin d'année. Bref, c'est pas folichon. Par contre, à moyen terme, moi, je suis un peu plus optimiste. Alors, je crois que c'est Gurman qui a parlé d'un projet renaissance chez Apple, voilà, qui est à l'horizon de 18-24 mois, avec de nombreuses nouveautés dans les tuyaux qui permettraient à Apple enfin d'enclencher un nouveau cycle. Et ça, il faut dire que si on regarde un peu plus loin que vraiment à court terme, il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas dans les tuyaux. Alors, je pense à cet iPhone pliable, je pense à l'iPhone des 20 ans, il y a les lunettes qui sont a priori, enfin, dont on nous promet une sortie pour la fin de l'année prochaine. Voilà, il y a de quoi en tout cas enclencher une nouvelle dynamique, tout en n'oubliant pas que Apple prévoit de revoir également en profondeur les iPad Pro et certains MacBook.
Quand tu as dit l'iPhone des 20 ans, ça m'a fait bizarre. Déjà, 20 ans, ouais. L'iPhone. J'ai eu un doute, je me disais, 2007, ah ouais, bah oui.
Tu m'as fait peur, j'ai cru que là, je m'étais trompé. Non,
l'iPhone 10, c'était 10 ans et là, on va arriver aux 20 ans. Dire que cet appareil a 20 ans, c'est assez impressionnant, ouais, de penser à ça. Je n'avais pas réalisé. On va passer à un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Apple, d'ailleurs, est un peu contre ça. Vous vous en êtes peut-être aperçu un soir dans l'obscurité de votre chambre. Pornhub, RedTube et YouPorn ne sont plus accessibles en France. Alors enfin, pour être exact, ces trois sites porno sont techniquement toujours ouverts, mais tout leur contenu est bloqué. L'éditeur de ces sites indique avoir censuré toutes les vidéos cochonnes en guise de protestation contre les lois françaises qui l'obligent à vérifier l'âge de ses visiteurs. Le groupe Halo a devancé de quelques jours une nouvelle mesure permettant à l'ARCOM de le mettre en demeure pour non-respect de la loi. Depuis le 6 juin, en fait, l'autorité française peut épingler les sites pour adultes qui ne contrôlent pas l'âge, y compris s'ils sont hébergés dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui est le cas pour ces trois sites-là. Et s'il n'y a pas de mise en conformité, l'autorité peut ensuite demander le blocage par les fournisseurs d'accès à Internet, et ce, sans décision de justice. Donc, l'éditeur a préféré couper lui-même l'accès à ces sites, mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire ?
Alors, la pornographie étant un sujet vieux comme le monde, cela ne peut pas être la fin d'histoire. Non, mais alors, j'ai envie d'attaquer l'histoire sous un autre angle pour commencer.
Ah, vas-y.
Tu connais cette boîte qui fait campagne en permanence sur les questions de vie privée, qui veut que grâce à ces technologies, ces outils ne soient pas trop invasifs et respectent la santé mentale de ses utilisateurs? Cette compagnie, elle s'était même plainte de l'arrivée d'app, je cite, porno, d'app porno app. Hardcore sur un App Store tierce. Bref, cette compagnie, elle a tout ce qu'il faut pour développer un standard qui permettrait de s'assurer que l'utilisateur qui se trouve en face de l'écran soit majeur tout en respectant sa vie privée. Tu sais quoi ? Non seulement cette compagnie ne bouge pas le petit doigt, mais en plus fait pression dans certains États américains pour qu'elle ne soit pas obligée d'intégrer une telle fonctionnalité dans ses outils. Alors, pensez-y quand lundi, Tim Cook vous parlera de la vie privée.
Mais est-ce que c'est pas donner trop de pouvoir à Apple et Google, puisqu'on parle d'eux, de faire reposer sur eux le contrôle de l'âge des utilisateurs? Je me pose vraiment la question.
Pour moi, ces systèmes d'exploitation, c'est la base. On peut pas aller plus... Voilà. Enfin, c'est eux qui contrôlent les données les plus importantes. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et puis ça permet d'avoir, et c'est exactement la connerie qu'on a fait d'ailleurs à l'Europe avec le RGPD, si tu fais peser cette responsabilité sur les 4 ou 5 acteurs majeurs, tu as un résultat beaucoup plus efficace que lorsque tu demandes à tout le monde de faire son petit bricolage dans son coin. Mais j'ai pas fini. Alors, vas-y. Histoire d'allumer tout le monde, elle fait quoi l'Union européenne ? On la voit imposer parfois des cahiers des charges loufoques pour la connexion des appareils audio en Bluetooth. Mais pourquoi elle prend pas vraiment à bras le corps le sujet et impose justement à Apple, Microsoft et Alphabet de développer une nouvelle technologie pour régler le problème ? Lequel de ces sujets est le plus important ? L'accès à la pornographie par des mineurs ou réglementer AirDrop ? J'ai cru avoir lu, mais j'avoue ne pas avoir vérifié que le marché français était un marché très important pour ces trois sites.
Ah oui, cela montre
tout de même, voilà, cela montre quand même tout de même que de leur côté, ils sont prêts à tout pour ne pas avoir géré cette histoire d'identification. Alors, le reste, bon, il était connu d'avance. On savait dès le début que ça ferait les affaires des éditeurs de VPN qui ont le mauvais goût de s'en vanter. Attention, je veux pas faire le vieux réac en disant ça. Je me moque surtout de leur discours commercial qu'on entend à longueur de journée. Faut utiliser un VPN pour la sécurité, les hotspots Wi-Fi, patati patata. Ça m'a étonné de l'entendre dans la bouche de mes enfants, comme quoi le bourrage de crâne relayé par les influenceurs et autres youtubeurs, ça marche bien. Bon, bah, je crois que j'ai rhabillé tout le monde. On continue ou on passe à autre chose, comme tu veux.
Bah, pour les éditeurs de VPN, on en a interrogé trois. On voit quand même que le sujet est un peu touchy. On a interrogé par exemple ProtonVPN qui disent bah, effectivement, voilà, avec un VPN, on peut contourner le blocage qui est mis en place en France. Mais bon, nous, à l'origine, on ne fait pas ça pour donner accès au site porno. C'est pareil pour NordVPN. NordVPN, on les a interrogés également. Ils ont dit... oui, mais alors, en fait, nous, pour s'abonner à NordVPN, il faut une carte de crédit. Donc, ça veut dire que vous êtes majeur. Et puis, on a aussi interrogé Opera, parce que le navigateur intègre un VPN gratuit. Et eux, ils n'ont carrément pas voulu nous répondre. Donc, tu sens que certains, en tout cas, ne veulent pas trop se communiquer sur le sujet. Voilà, c'est un peu sensible.
Alors, je le dis en étant utilisateur moi-même de VPN, il y a quand même une belle hypocrisie entre le discours commercial des VPN, hein, donc hein, comme tu l'as dit, et ce que font les gens avec leur VPN, hein,
oui,
qui consiste essentiellement à contourner des lois ou des restrictions géographiques. Voilà, et on n'a même pas parlé du piratage encore.
Oui, parce qu'en plus, là, Proton nous a répondu « Non, mais bon, nous, on ne fait pas de VPN pour donner accès au site porno, mais en fait, dès quelques minutes après la mise en place du blocage, ils avaient fait un tweet montrant que leurs inscriptions avaient explosé suite à ce blocage-là. » Donc, ouais, il y a une certaine hypocrisie dans le milieu. Ouais. On va parler du dernier sujet de la semaine, c'est la concurrence qui fait rage dans les télécoms en France. Depuis la fin de l'année dernière, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile, les opérateurs baissent continuellement leurs prix, tout en améliorant leurs offres. Si vous avez le même abonnement depuis quelques années, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil aux offres actuelles, parce que vous pouvez faire sûrement de grosses économies. Alors sur la fibre, tous les opérateurs ont suivi l'offre BNU Pure Fibre, et proposent maintenant des abonnements avec un débit ultra rapide, et une box moderne autour de 25€ par mois. Et sur les forfaits mobiles, on a maintenant 200Go pour 10€ par mois, ainsi que des offres autour de 5€ qui comprennent plusieurs dizaines de gigas. Même Orange, qui d'habitude essaye de maintenir ses prix assez élevés, a été obligé de suivre le mouvement. Est-ce que ça va durer, toutes ces promos super attractives, Christophe ?
Bah, tout d'abord, il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a en France d'avoir des prix pareils.
Ouais.
Enfin, on n'est pas tout à fait en France. Mais je vais vous donner des éléments de comparaison avec l'Allemagne. Alors, moi, je paie actuellement 30€ par mois pour 30Go de données par mois. Oui, pour 30Go de données. J'ai eu le droit à 10Go de plus il y a quelques mois. Hein, donc, voilà, je suis content d'avoir 30Go maintenant. Alors, c'est un forfait sans option spectaculaire, mais je passe par un opérateur virtuel en plus pour avoir accès au meilleur réseau allemand. Et pour tout ça, pour avoir un ce prix-là, j'ai dû quand même m'engager, je ne sais plus si c'est 12 ou 24 mois. Alors, pareil pour la fibre, je suis à 60€ par mois pour un débit de 600 MB. Vu le prix, je voyais pas l'intérêt de prendre plus, je crois que je pouvais avoir peut-être 1Go. Et à ce prix, c'est même pas du triple play. Par contre, c'est de la fibre quasiment nue, j'ai un petit boîtier à l'entrée de la maison et je branche le routeur que je veux. Bon, bah, ça fait cher le prix de la liberté, mais bon, c'est vrai que le côté routeur est très pratique, je dois le reconnaître. Mais voilà, le marché allemand est un marché super compliqué, mais je me suis toujours dit que Free pourrait faire un tabac. Mais peut-être que c'est la fausse bonne idée. Bref, pour en revenir à ces promos, je trouve que ces dernières années, les forfaits mobiles étaient vraiment intéressants, mais que les opérateurs avaient tendance à se rattraper sur la fibre optique. Mais alors pour moi, c'est tout l'avantage d'avoir un marché à quatre opérateurs. Il y en a forcément un qui a intérêt, à un moment ou à un autre, d'être agressif sur le plan commercial. Il y a SFR qui cherche à repartir de l'avant, parce que je crois que l'idée est de se vendre à court ou moyen terme. Bouygues cherche à renforcer ses positions sur Internet fixe. Ouais. Voilà, Free cherche toujours à grappiller des parts de marché. Et bon, et puis Orange est dans son rôle d'opérateur historique. En tout cas, cette concurrence, c'est tant mieux parce qu'on le voit de temps à autre, il y a certains réflexes qui ont tendance à revenir très vite au galop. Alors, voilà, on se souvient que Orange a longtemps freiné pour proposer de la 5G à un prix acceptable. Mmh. Alors voilà, comme on l'a laissé sous-entendre, la seule chose qui pourrait changer la donne, c'est une vente de SFR. Les rumeurs sont reparties récemment de plus belle, mais ça dépend aussi, et surtout, j'ai envie de dire, du scénario de la vente. Est-ce que ce sont les trois opérateurs qui se partageront la proie, et là, il y a un vrai danger, ou est-ce que c'est un acteur tiers qui viendrait se lancer sur le marché français? C'est une possibilité, mais bon, faut aussi avoir pas mal de courage, parce que bon, là, il y a beaucoup de concurrence et les marges sont assez faibles.
Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous. Et puis, va falloir bien se reposer parce que il y a mon petit doigt qui me dit que lundi soir, va falloir travailler.
Ouais, la semaine va être longue la semaine prochaine. On vous donne bien sûr rendez-vous lundi à 19h sur lekeynote.fr pour suivre l'événement en notre compagnie. Alors lundi, c'est férié, mais toute l'équipe sera sur le pont pour couvrir la WWDC 2025, évidemment. D'ici là, bon week-end. Salut à tous.